Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, le marché de 10 sera donc l'occasion pour l'interview d'être présente. Et face à moi, j'ai Hervé Cassard, bonjour.
Bonjour Yves.
Et Nicolas Favre-Darcier.
Salut Yves.
Bonjour à vous deux. Donc nous sommes ici pour parler de cette soirée de solidarité avec les 3 de 10 qui va se dérouler ce vendredi 7 mars 2025 à partir de 18h et ça sera à la salle polyvalente de 10. C'est une soirée festive et aussi l'occasion de vous rencontrer et peut-être de discuter autour de cette problématique, de cette, justement de ce soutien. Vous êtes convoqué le 20 mars au tribunal de Valence. Pour vous, alors, qu'est-ce que représente cette soirée ?
Alors, la soirée, on va en parler un petit peu après. Moi, ce que je me propose peut-être dans un premier temps, c'est de rappeler le contexte. On est donc trois citoyens de 10 à se retrouver convoqués au tribunal de Valence le 20 mars. Pourquoi ? Parce qu'on a organisé une des 14 manifs qui a eu lieu sur le premier semestre 2023. Une de ces manifs, celle précisément du 6 avril, il nous est reproché sur cette manif d'avoir entravé la circulation dans la mesure où on a organisé un pique-nique à un moment donné sur la chaussée et d'avoir fait une fausse déclaration dans la mesure où on n'a pas déclaré le pique-nique. Bon, alors, ce n'est pas une affaire simple hein, de délit. Il y a des peines de prison, il y a des amendes assorties à ces délits. Et donc, on a pris un avocat et on a organisé, à travers la création d'un comité de soutien, on a organisé une mobilisation. Et la mobilisation est assez forte sur 10. On est présent sur le marché le mercredi et le samedi pour faire signer la pétition. On a fait un article dans le journal du Diwa qui explique ce qui se passe. On a sollicité quelques personnalités, notre députée Marie Pochon qui sera présente lors du procès. On a Mediapart qui nous assure un relais au niveau national. On a le Dauphiné qui sera aussi présent lors du procès. Parmi les différentes initiatives qu'on met en place, on a aussi mis une cagnotte en ligne pour rassembler quelques sous pour payer les frais d'avocat dans un premier temps. Et on organise, ce pourquoi on est là aujourd'hui, et merci Yves de nous donner la parole une nouvelle fois, on organise une soirée de soutien, une soirée festive pour justement faire du bruit autour de cet événement et rassembler un peu d'argent.
Et donc, cette soirée sera riche en événements. Est-ce que vous avez établi un avant-goût de ce qu'il y aura ?
Ben oui, on est organisé hein, complètement. Donc à partir de 18h, si on vous attend donc à la salle polyvalente, comme ça a été dit, eh ben il y aura effectivement de quoi réjouir toutes les personnes qui veulent faire une soirée festive, parce qu'il y aura de la musique, il y aura des chants, il y aura du slam. Et en même temps, il y aura aussi à manger parce que ça se passe, puisqu'on parlait de pique-nique, et là, ça va être un bon petit repas. Il y aura des crêpes, il y aura des tartines et il y aura bien sûr un bar. Voilà, donc ça démarre à 18h jusqu'à minuit dans la mesure où tout se passe. Voilà, c'est tout.
Et on prie les auditeurs d'amener leur table également. Hein.
Non. On a eu un document de la mairie, un courrier signé par Madame le maire qui avalise le fait que lors de cette réunion du 6 avril 2023, il n'y a eu aucun problème. Les services techniques ne sont pas intervenus sur la voirie. On était sur notre parcours, hein, il faut que ce soit bien clair, et on aurait dépassé l'heure fatidique de la déclaration en préfecture qui était de 13h, on a fini à 13h15. Imaginons, 13h15 sur une manifestation. Tout le monde trouve que cette histoire est un peu folle, voire ridicule, parce que on n'a jamais eu sur les 14 manifestations aucun problème. Il n'y a jamais eu une vitre cassée. Et c'est le fait d'une personne de la gendarmerie qui a relayé au niveau du procureur et qui lance donc ce procès.
Ça s'est toujours bien passé.
Ça s'est toujours bien passé. Mais non. On a eu des rapports très courtois avec les forces de l'ordre ce jour-là. Ils nous ont demandé de libérer le lieu à 13h04. On leur a dit ben non, on a autorisation jusqu'à 15h. Et voilà, on s'était trompé. Toutes les autres manifs, on avait mis 15h. Ce jour-là, on a mis 13h. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, quelques minutes après, on a dispersé les gens et la circulation a été réouverte. Ça s'est passé très très tranquillement. D'ailleurs, tu faisais allusion, Hervé, de la lettre de Madame la mairesse, qui effectivement confirme que les services de la ville n'ont pas été sollicités, que de son avis à elle, tout s'est passé dans le calme, qu'il n'y a pas eu de débordement, que la manifestation s'est vite dispersée. Enfin voilà, elle rajoute de l'eau au moulin sur l'espèce de sentiment général, cette incompréhension à ce qu'on se retrouve au tribunal. On entend un peu tous les jours dans les médias que la justice française est débordée, que les magistrats sont obligés de trier les dossiers et les affaires en cours. Et on est assez surpris de se retrouver au tribunal pour des raisons aussi légères.
Alors précédemment, je vous avais déjà reçu hein, pour ce comité de soutien pour les 3 de Die. Et à ce moment-là, vous affirmiez qu'il y avait peut-être environ un millier de cas similaires en France. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres parties qui sont impliquées aussi sur ces convocations?
Oui, alors tu fais référence à une tribune qui est parue dans Le Monde au mois de décembre 2023, donc à peu près 6 mois après ce grand cycle national de manifestations. Et cette tribune, animée par Sophie Binet, entre autres, expliquait qu'il y avait au niveau national à peu près 1000 organisateurs de manifs, militants CGT ou pas, qui se retrouvaient inquiétés par la justice pour des points similaires à ce qui nous concerne, Hervé, moi et Dominique. Donc, ce qu'on comprend, enfin, on est en train de discuter...
Je t'interromps, ouais. Ces points similaires, c'est-à-dire des choses plutôt anecdotiques, accessoires, pas forcément de la violence ou...
Non, ce ne sont pas des actes de violence, ce sont des cortèges qui, à un moment donné, au lieu de passer à droite, ils ont pris à gauche. Au lieu de finir à 15h, eh bien, la manifestation a été dissoute à 15h20. Des petites choses qui, normalement, ne font pas effet de quoi que ce soit et qui aujourd'hui sont mis en épingle. Et voilà, nous, on ressent très très fort une espèce d'intimidation. Moi, personnellement, demain, il y a une manifestation à Die. Qu'on me demande d'aller la déclarer, ben, je vais réfléchir à deux fois. En me disant, ben voilà, en avril 2023, il s'est passé tel truc. Aujourd'hui, on se retrouve avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, avec potentiellement des frais, potentiellement une interdiction de manifester, potentiellement des peines de prison. Enfin voilà, personne ne souhaite se retrouver dans ces situations-là. Donc, il y a une intimidation politique. Moi, mon avis, c'est qu'il y a une velléité du ministère de l'Intérieur de l'époque de casser le mouvement, d'intimider. Voilà, ce cycle de manifestations contre la réforme des retraites, il est resté très très fort du premier jour jusqu'au dernier jour, soutenu très fortement par une grande majorité de la population, à tel point que le gouvernement n'a même pas pris le risque de le faire voter par l'Assemblée nationale et qu'il est passé en force avec le 49-3. Donc voilà, les affaires, quand elles sont passées en force socialement, elles sont pas réglées. C'est pas complètement anodin si aujourd'hui en 2025, au printemps 2025, on est encore en train politiquement de reparler de la réforme des retraites et que les syndicats remettent ça sur le tapis. Les lois qui sont passées en force, eh bien, elles ne sont pas réglées et donc elles restent dans l'inconscient collectif ou même pas inconscient du tout. Et voilà, ce procès, pour moi, il est politique. C'est un procès politique.
La semaine dernière, autour de cette soirée et avec ce mouvement pour les 3 de Die, était organisée à la salle communautaire une conférence avec, je crois, Serge Leslama et Laureline Fontaine. Oui. Et vous êtes intervenu également pour témoigner de votre situation au public. Qu'en est-il ressorti de cette rencontre aussi? Est-ce que vous avez eu... un certain éclairage aussi sur cette démarche de l'État, de cette répression.
Oui, c'était les notions abordées, c'était l'État de droit. Comment fait-on avec l'arsenal actuel du droit et des lois et comment sont-elles interprétées? Moi, ce qu'on a, on en a un peu ressorti, c'est qu'en fait, tout est interprétable. Même Laureline, elle a dit à un moment donné que c'était open bar sur l'interprétation de l'état de droit. Et Serge Lama a rajouté quelque chose, c'est qu'en fait, vu l'évolution globale qu'on voit à travers le monde, à travers l'Europe, si d'aventure il y avait un pouvoir très fort qui se mettait en place au niveau de notre pays, de la France, l'état de droit pourrait être respecté, mais complètement durci. Elle a pris un exemple assez significatif qui était, par exemple, le droit à l'avortement. Il y a une loi, il y a un état de droit là-dessus, c'est rentré dans la Constitution, oui, absolument.
La liberté d'avorter.
La liberté d'avorter, qui est sur 14 semaines actuellement. Et pourquoi pas, en restant dans l'état de droit et dans la loi, pourquoi pas ramener ce délai à 6 semaines, à 2 semaines? Eh bien, cela pourrait se faire en restant dans l'état de droit. Donc, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur notre situation. Et en même temps, la situation globale du pays, savoir qu'il faut rester vigilant. Et je pense que nous, quelque part, l'histoire qui nous tombe dessus en ce moment, elle est là pour mettre le doigt sur ce type de problématique et de faire réfléchir les personnes sur ce qui se passe actuellement au niveau national, européen et mondial. Donc la valeur de notre procès est peut-être de réveiller un peu quelques consciences pour se mettre en vigilance par rapport à ce qui risque de se produire.
Oui, ouais, tout à fait, Hervé. Pour compléter, nous étions présents à cette soirée pour donner un éclairage local et un exemple réel de ce que c'était que les atteintes à la démocratie, les atteintes pour ce qui nous concerne au droit de manifester. Et je crois que les gens ont été assez touchés par l'exemple qu'on est venu défendre au micro. Ils ont été touchés. Ça a donné lieu à quelques échanges verbaux, des questions, des réponses. Et on avait mis une petite boîte à la sortie en demandant aux gens qu'ils souhaitaient de nous mettre une petite pièce, un petit billet. Et la solidarité a bien fonctionné. On a eu pas mal d'argent, donc beaucoup de gens ont signé aussi la pétition, beaucoup de gens qui sont venus discuter avec nous, qui sont venus raconter un peu ce qui se passait dans leur région, dans leur village. On sent bien que ce sentiment là qu'on partage là tout de suite, il est partagé par beaucoup de gens qui sentent que la démocratie est fragile et qui se questionnent à savoir si est-ce qu'on est encore dans un état de droit aujourd'hui en 2025 en France. Voilà, il y a l'autre exemple là qui me vient aussi à l'esprit, c'est puisque tu parles de la liberté d'avorter qui est maintenant dans la Constitution depuis un an, et puis dans le même temps aujourd'hui il y a le département qui annonce la fermeture des centres de santé sexuelle qui concerne le centre de Die où il y a une personne qui est présente pendant 2 jours toutes les semaines. Et voilà, et évidemment, sur ces lieux qui sont où l'anonymat est respecté, où il peut venir des mineurs sans l'accord, sans la permission des parents, qui peuvent parler d'avortement. Voilà, tout ça, si c'est mis en difficulté, eh bien, le droit d'avorter, il est aussi mis en difficulté par la restriction des moyens de mettre en place cette IVG.
Il y a une émission sur RDOA qui parle de ce sujet, de ces 8 fermetures de centres de santé sexuelle dans la Drôme. Et donc, il y a une émission qui est sortie dans l'interview émanant de Radio Royan avec Céline qui donc proposait à Gladys de s'exprimer, qui est elle-même donc salariée d'un des centres de santé sexuelle. Et il y a un autre point de vue aussi qui vous a été démontré, c'est aussi l'aspect juridique, l'arsenal juridique dans la Constitution qui permet peut-être aussi d'imposer une certaine dictature. Ça, est-ce que vous en avez un petit retour vous-même?
Dictature, un régime autoritaire.
Oui, voilà. Alors on a eu un avant-goût avec le confinement du Covid.
Oui.
C'est oui, un peu oui, en parallèle oui. cet aspect-là.
Ce que nous expliquent Serge Lama et Auréline Fontaine, c'est que l'arsenal au niveau de la Constitution, il est prêt. Et qu'il y a des lois aujourd'hui liberticides sur les libertés individuelles, sur le droit au sol, on voit bien qu'il est remis en cause, sur l'identité, sur la... Voilà, il y a plein de choses, qui des idées nauséabondes qui font surface, et que l'arsenal juridique, il est prêt pour, une fois un pouvoir autoritaire, au pouvoir, mettre ça en musique assez rapidement. On voit ce qui s'est passé en Italie. Voilà, Meloni a été élue et il y a plein de choses qui se sont mises en place très rapidement. Il n'a pas fallu descendre dans la rue, faire voter des lois, tout était prêt, quoi. C'est ça dont on parle.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Je reviens sur cette soirée, il y aura de quoi se restaurer.
Oui, hein, comme on est en France, on aime bien manger, on aime bien boire un coup. Donc oui, il y aura des crêpes sucrées, des crêpes salées, il y aura des tartines. Et puis ce sera à prix libre, chacun donnera bien ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et il y aura donc de la musique, il y aura des chants, il y aura des chorales qui seront présentes. Et puis il y aura une petite intervention aussi pour réexpliquer à nouveau la situation. Et puis s'il y a des prises de parole de personnes qui veulent dire comment ils ressentent la situation. Nous, à notre niveau, cette histoire, elle pèse quand même un petit peu, pour être tout à fait honnête quand même, parce qu'on y pense régulièrement. Ça nous prend beaucoup de temps en ce moment même. On ne lâche rien. D'ailleurs, c'est le principe de ne rien lâcher. Et en fait, ça nous conforte dans notre... objectif quand même d'animer au niveau local un mouvement citoyen qui permet de faire face à tout ce qui peut arriver qui est contre la volonté populaire.
Je reviens un peu sur cet aspect qu'on peut découvrir sur le DIWA avec ces mouvements, ces rassemblements, ces créations de comités ou de collectifs. Est-ce que vous en avez écho aussi de ce qui se passe ailleurs en France ?
Alors oui, il y a un mouvement national qui s'appelle Nicolas Terre de lutte, voilà, et qui regroupe un peu tous les mouvements qui se mettent en place en ce moment face à ce que le gouvernement promeut en ce moment avec Retailleau et Darmanin, hein, donc que ce soit bien clair. Il y a eu aussi le contre-coup des élections législatives. Où les circonscriptions où des gens du RN ont été élus, il y a un contre-pouvoir qui s'est mis en place avec un dynamisme nouveau, notamment sur Montélimar, hein. Et partout. Moi, j'ai des amis en Bretagne, en Ariège aussi, mais il y en a aussi sur le plateau des Mille Vaches, il y en a à peu près partout. Et toutes ces petites étincelles, elles se regroupent dans ce mouvement qui s'appelle Terre de lutte. Donc, personnellement, nous, au niveau de notre histoire, on n'a pas encore rallié le mouvement. Mais en fait, ça, comme on disait à peine, c'était juste pour que les gens prennent conscience, quoi.
Oui, alors ce qu'on remarque au niveau du DIWA, c'est quand même, nous concernant notre mobilisation, elle est sympa. Elle est forte. Les gens sur le marché qu'on interpelle pour signer la pétition, on leur fait lire le tract, les gens signent facilement. Enfin, on est dans un environnement, on sent de la solidarité, on sent un accompagnement. Les gens qui ont un petit peu d'argent, ils nous donnent une pièce, un petit billet. C'est chouette. Ça. Il y a un côté... voilà, il y a une espèce de mobilisation autour de thèmes qui sont chers aux gens d'ici, qui sont chers aux Français, on va dire, sur la liberté de manifester, sur la liberté d'expression, sur... nous, aujourd'hui, on n'a pas brûlé de véhicules municipaux, on n'a pas insulté les forces de l'ordre, on n'a rien fait de tout ça et on se retrouve au tribunal, quoi. Donc les gens sont très surpris. Les gens sont très, très surpris de ce qui nous arrive.
Il y a eu ces 14 manifestations contre la réforme de la retraite en 2023. Est-ce que on sait bien comment ça a abouti, hein. Donc la réforme a été finalement adoptée par le 49-3. Est-ce que je crois que c'est de nouveau en discussion? Est-ce qu'il y aura peut-être encore cette envie de s'exprimer sur ce sujet?
Oui, il y a les syndicats qui... qui sont sollicités pour une sorte de conclave là, pas parler. Et évidemment, le sujet des retraites ne souhaite pas être abordé par le gouvernement. On parle de tout sauf des retraites. Il y a les partis de la gauche écolo progressive, les partis progressifs qui essayent de remettre ça à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale. C'est compliqué, mais de toute façon. La mobilisation n'est pas retombée. Il y a 70% des Français qui étaient contre cette réforme, 90% des salariés. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont toujours contre cette réforme qui leur vole 2 ans de leur vie, les meilleures années de la retraite, parce que c'est les premières. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est en bonne santé jusqu'à 80 balais. C'est là où on a des projets, des petits-enfants, des voyages, des choses à faire. Et ce temps-là nous est volé, sachant que le chômage progresse, que les jeunes ne trouvent pas de boulot. Quand on a un taux de chômage en Europe, l'employabilité des jeunes est un des plus faibles d'Europe en France. Et à côté de ça, on met en parallèle le travail des seniors qui sont fatigués et qui ont envie de s'arrêter. Quoi. Voilà la logique gouvernementale.
Oui, puis je voulais rajouter que justement, tu parlais des premières années de retraite, ce qui est mon cas. C'est que dans toutes les associations dans lesquelles se retrouvent ces personnes, que ce soit pour ma part la CLCV, mais il y a aussi la Ligue des droits de l'homme, etc., il y a beaucoup de gens âgés, il y a beaucoup de gens retraités. Donc, les retraités jouent un vrai rôle au niveau social et au niveau de la vie de la collectivité.
Il y a aussi un aspect à découvrir, et ça, c'est un peu aussi ce collectif pour un Diwa ouvert et solidaire. Est-ce qu'il faut aller au-delà des clivages politiques et d'opinions pour pouvoir aussi affronter un peu cette adversité?
C'était un peu la base de Diwa ouvert et solidaire, hein, donc qui vient de faire son dernier forum le 1er mars.
Pour vous, cela semble vraiment important. Hein.
Ce qui est surtout intéressant, c'est que suite aux dernières législatives, on a vu arriver beaucoup de jeunes personnes, de jeunes gens qui viennent s'investir enfin dans le mouvement. Et c'est le cas de Diwa ouvert et solidaire, où le dernier forum, justement, il y avait les 2/3 des présents qui étaient des trentenaires, des quarantenaires. Et nous, on dit place aux jeunes, avec grand plaisir. Et surtout, ils amènent, eux, leur façon de voir la vie, de voir une nouvelle organisation. Et ils ont voulu, à un moment donné, se dissocier des partis politiques, justement, pour aller vers l'autre qui peut des fois avoir des pensées qui ne sont pas tout à fait correspondantes aux nôtres. C'est un peu l'idée, c'est de ne pas ostraciser qui que ce soit, mais d'aller discuter, d'aller à la rencontre. C'est le sens premier de Diwa ouvert et solidaire. C'est ce qui est en train de se produire.
Je crois qu'on a pu tout dire. Est-ce qu'il y a d'autres informations autour de votre mouvement? Il y a cette soirée donc du 7 mars, ensuite cette convocation au tribunal de Valence le 20 mars. C'est le jeudi en fait. Hein.
Oui, c'est le jeudi à 13h30. On aura sur les parvis du tribunal une grosse mobilisation avec des prises de parole. On a la CGT qui nous a dit qu'elle serait présente parce que la CGT est très très sensible à la liberté de manifester. On a sans doute d'autres syndicats qui vont nous rejoindre. On aura Marie Pochon, notre députée, qui sera présente et qui fera une prise de parole. Et nous, ici, côté Diwa, on va organiser un covoiturage au départ de Méros, donc du parking Méros, à 11h30 le jeudi 20. Donc pour ceux qui souhaitent s'y rendre et qui n'ont pas de voiture, c'est mon cas, eh bien on se répartira dans les voitures qui seront là disponibles. Et donc on a deux rendez-vous à proposer aux auditeurs de RDIWA. C'est ce vendredi à partir de 18h à la salle polyvalente pour une soirée festive de soutien. Et le 20, jeudi 20 mars, c'est dans 15 jours, pour venir nous soutenir au procès. Et je pense que ça va être un chouette moment citoyen, populaire et militant.
Pour ce qui est de ces rassemblements ou de ces collectifs, est-ce qu'il y a une certaine une fréquence de réunions, d'assemblements, de rencontres sur le Diwa?
Au niveau du... Alors, nous, pour ce qui nous concerne, les trois de DI, assez rapidement, il s'est constitué autour de nous un comité de soutien d'une quinzaine de personnes et on leur dit merci parce qu'ils ont fait un boulot impressionnant. Et ça nous aide bien et ça nous montre aussi qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Ça, moralement, c'est très intéressant parce que on passe par des phases un petit peu démoralisantes. Hein. Effectivement, on est confiant sur ce qui va se passer le 20, mais voilà, tant que c'est pas passé, on a toujours ce risque de se retrouver condamné avec du sursis ou pas, avec une amende ou pas, voilà, avec l'interdiction de manifester. Enfin, voilà, on ne sait pas le législateur ce qui va décider. Et voilà, on est un collectif et c'est ce qu'on dit souvent avec Hervé. Hein, tout seul, on n'est pas grand chose et ensemble. On est fort, hein, et c'est quand on est ensemble qu'on arrive à faire bouger un peu les lignes.
Oui, juste rajouter quand même que si on se retrouve dans cette situation, c'est parce que c'est un gendarme local qui a fait une remontée jusqu'au procureur, qui aurait pu lui-même arrêter l'histoire, mais qui en fait l'a fait perdurer. À cette époque-là, on avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Darmanin, qui est maintenant le ministre de la Justice. Alors, on espère que la justice est indépendante et qu'elle ne sera pas aux ordres du pouvoir qui pourrait des fois donner un verdict qui nous surprendrait.
Peut-être que vous aurez un dossier classé. Ensuite,
oui, on l'espère. Hein. Oui. On l'espère. Je crois que c'est la défense qu'on va proposer à notre avocat, de dire que nous, on demande soit la relaxe, soit sans suite. Enfin, voilà, je ne sais pas juridiquement qu'est-ce qu'il faut prendre comme mot. Mais voilà, nous, on demande. Oui, il y a. C'est clair et je pense que c'est vers ça qu'on va aller.
Il y a un petit point de projecteur que j'avais envie de mettre aussi, c'est justement ce classement sans suite, suite à ce lycée de Bétharram, la Notre-Dame de Bétharram, où M. Bayrou, malgré des accusations, son dossier est classé sans suite. Est-ce que vous trouvez qu'il y a actuellement deux justices ?
Ben, écoute, on te le dira le 20 au soir, suivant ce qui se passe. Maintenant, moi, je n'oserais pas me prononcer sur ce qui se passe à Bétharram. Hein.
Non, c'est un exemple.
Ouais. C'est un exemple.
La définition de l'état de droit, c'est la Constitution, c'est la représentation nationale, c'est plein de choses, c'est les libertés individuelles, mais c'est aussi qu'on est tous égaux devant la justice. Et là, on voit bien que ce soit Nicolas Sarkozy qui se retrouve avec un bracelet alors qu'il a déclenché une guerre. C'est mon avis. Que ce soit François Bayrou qui était au courant, les preuves sont nombreuses et qui finalement a fait la politique de l'autruche. Bon, voilà, c'est deux poids deux mesures, clairement. Alors, mais même plus proche de nous, moi, il y a eu, je l'ai déjà dit, on en a parlé entre nous, il y a eu la manifestation des paysans l'année dernière au mois de janvier. Bon. Moi, je suis pas en train de dire c'est pas une lutte légitime, machin, etc. Je veux pas opposer les luttes. Il y a des problèmes dans l'agriculture. Très bien que ces gens puissent s'exprimer, c'est très bien. Et quand on n'arrive plus à s'entendre autour d'une table, eh ben il reste la rue et l'expression dans la rue. Bon. Simplement, au mois de janvier l'année dernière, ils sont venus. Moi, j'étais en train de prendre mon café à la boulangerie rouge. Ils sont venus de bonne heure le matin. Ils ont déposé du lisier, des balles de paille, des pneus usagés devant la sous-préfecture. La sous-préfète est descendue. Elle a serré quelques mains. Les gendarmes étaient présents. Ils ont serré quelques mains. Le reste de la journée a été consacré au nettoyage de la place. Et à ma connaissance, et je ne crois pas me tromper, il n'avait fait ni déclaration et il n'y a eu aucune poursuite de personne, alors que les services municipaux ont été fortement impactés. Ils ont travaillé toute la journée pour rendre l'espace. Donc effectivement, deux poids, deux mesures, oui, moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi nous on est poursuivis avec des délits pas neutres. Et des peines conséquentes et potentielles voilà. Alors je dis pas qu'il faut poursuivre les paysans, je dis juste qu'il faut pas nous poursuivre nous, quoi. Voilà. Ouais, qu'on soit clair.
Eh bien, et comment vous joindre ? Est-ce que vous avez une adresse mail pour vous contacter ?
Oui, on a une adresse mail. Sinon, on a aussi sur le tract, le mail s'appelle le comité de soutien comité les 3 de 10 @mailo.com. Sinon, on a mis en ligne une cagnotte Lynchy et puis on a une pétition qui circule pour ceux qui ne l'ont encore pas signée. On a déjà à peu près un millier cent de signatures et c'est pas fini.
Hervé Cassard et merci. Nicolas Favre-Darcier, je vous remercie tous les deux d'être intervenus sur RDIWA pour nous parler de votre situation. Je vous souhaite une bonne journée.
Pareillement.
À courir pacifique à l'Inde. On voulait quoi ? On voyait partout des sardines alignées dans l'huile de moteur. Fallait donc qu'on couse à nos jeans des fils de couleur. On était nés sur des ruines de times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'entends les mélodies grises et toutes ces voix qui disent ils viendront plus. J'entends les fontaines de pleurs. J'entends gémir les cœurs des si j'avais su, si j'avais pu, des si j'avais eu moins peur. J'entends grossir les ventres et fumer les cigares. Ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. J'entends grossir les flingues et fumer les mémoires. Pendant qu'une bande de dingues au fond de leurs idées peuvent arrêter l'histoire. On voyait partout des sardines alignées dans de l'huile de moteur. Fallait donc qu'on cause à nos jeans des fils de couleur. On était nés sur des ruines de times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'en ai trouvé qui s'amène, il s'envole, il t'emmène et tu t'en vas. Tiré par 36 planeurs. J'en ai trouvé qui rôde au fond des nuits chaudes, au fond d'un lit du tropical équateur. J'en ai trouvé qui passe en travers de moi. Un ouragan qui corse un campant d'habitude et puis qui s'en va. J'ai l'impression de voir une cible émerger du brouillard. D'avoir pensé impossible et dans un soupir du temps l'apercevoir. Même si je vois encore des sardines alignées dans de l'huile de moteur, il me reste un couplet d'Imagine, il m'emmène ailleurs. Juste les jours meilleurs.